Bien, que le Seigneur soit béni ce matin, lui qui a permis que nous puissions nous rencontrer en ces lieux pour écouter sa parole. Je partirai d'un passage, un verset, du dernier passage que Jean-François nous a lu. Il dit, c'est par grâce que toi et moi nous sommes sauvés. Alors, la parole, le passage ajoute « par le moyen de la foi ». Et donc, cette foi-là, c'est quelque chose de très important. C'est ce moyen par lequel toi et moi nous sommes sauvés. Alors, nous allons parler de cette foi-là, ce qu'elle induit dans la vie courante, dans la vie pratique. C'est de cela dont nous allons devoir parler ce matin. Alors, nous allons lire deux passages. Le premier, c'est 1 Jean 5, versets 3 à 5. 1 Jean 5, versets 3 à 5. Et le deuxième, c'est dans Marc, chapitre 9, verset 23. Nous lisons. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. 1 Jean 3, 1 Jean, chapitre 5, versets 3 à 5. Et dans Marc, chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Donc je vois que le passage de Jean, qui est un des apôtres de Jésus, vient appuyer cette parole de Jésus. Mais moi, mon passage, je parle du passage de Jean qui dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voilà. Et de là, je vois le mot « triomphe ». La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et de là, je parle du mot triomphe, et mon thème c'est les triomphateurs. Toi et moi, nous sommes des triomphateurs. Le fait de détenir la foi, nous sommes des triomphateurs. Nous triomphons du monde. Et j'ai vu dans le dictionnaire Larousse, le triomphe veut dire quoi? Le triomphe veut dire une victoire éclatante. Un grand succès. Amen. Donc, comme nous, tout celui qui détient la foi triomphe du monde. C'est un triomphateur. Alors, ce matin, c'est cela mon thème que je vais devoir développer pour que ceux qui sont en Jésus-Christ sachent qu'ils sont des triomphateurs de ce monde. Parce que ce monde, vous savez, il est sous le pouvoir du malin. Et le malin a érigé ce système qu'il domine. Et voilà les difficultés que nous avons. Maintenant, la France est en pleurs, toujours à cause de ce système du malin, des innocents, des gens qui étaient en train de se balader calmement. Et voilà, tout d'un coup, quelqu'un vient, il est fauche comme ça. Voilà le système de ce monde dans lequel nous vivons. Voyez, ce n'est pas seulement ici en France. Hein. Voyez, à travers le monde, quand vous suivez la radio, il y a toujours des scènes de ces gens-là. Les gens continuent à mourir. On a aussi suivi en Turquie. Des gens sont morts. Et ça continue. Les gens de Daesh continuent à tuer. Des bandits partout à travers le monde. Ça ne va pas. Les gens se plaignent. Partout, les gens se plaignent. À cause du système qui a été érigé par le malin, par Satan, et qu'il contrôle. Mais alors, Dieu fait de nous qui croyons en Jésus-Christ, le fait que nous croyons en Jésus-Christ, alors Jésus fait de nous des triomphateurs, des détenteurs, bon, je veux dire, des gens qui avons la foi. Et cette foi dont nous parlons, je vais parler ce matin, ce n'est pas la foi naturelle. Je vais vous parler de la foi qui vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 19, nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc cette foi dont je vous parle, ce n'est pas la foi naturelle. C'est cette foi-là qui naît de l'écoute de la parole de Dieu. Dès que vous écoutez la parole de Dieu, cette parole produit en vous la foi. Et cette foi vous amène à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Alors, ici nous voyons que nous qui croyons en Jésus-Christ, nous avons la foi. Et comme nous avons la foi, Jésus fait de nous des triomphateurs. Alors, il n'y a pas que nous, aujourd'hui, qui avons la foi. Il y a des gens qui nous ont précédés, qui ont eu la foi, la même foi que nous avons, nous, aujourd'hui. Ceux qui nous ont précédés, nous allons devoir illustrer cette foi-là par un exemple concret et voir que cette personne, dans cet exemple-là, la personne est sortie triomphante. Et donc, pour dire que si cette personne a triomphé, toi et moi aujourd'hui qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes des triomphateurs. Alors qu'est-ce que la foi? La foi, d'après ce que dit la parole de Dieu, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est ainsi que les gens, les païens, nous prennent pour des fous. Hein. Comment vous pouvez avoir l'assurance des choses que vous espérez? Comment vous pouvez démontrer quelque chose alors que tu ne la vois pas? C'est juste aux antipodes de la science. La science, elle démontre par des faits A plus B égale 2. Donc, 1 A plus B, voilà, quelque chose comme ça. Et voilà. Et le résultat est là, n'est-ce pas? Et quand ce n'est pas démontré comme cela, la science n'accepte pas. N'est-ce pas? Mais nous, c'est juste le contraire. Nous affirmons des choses que nous ne voyons pas. Nous les démontrons même. Mais alors, les gens n'ont pas une poudre de fou. Voilà, nos bien-aimés. Alors, souvent, les gens ont difficile à saisir. Toujours dans la lecture en disant la parole de Dieu. Alors, j'ai cru comprendre ce que c'est que la foi. Je vais vous donner un exemple. Dans une maison, comme il y a souvent de la plupart des maisons en France, il y a des caves. Hein. Alors, dans une famille, la maman avait l'habitude de garder le sac de braise. Souvent en Afrique, on prépare avec des braises. Alors, le sac de braise était dans une case. Alors, papa, maintenant, il n'y avait plus de braise. Papa est descendu dans la cave pour aller voir les quelques bouts qui étaient tombés sur le pavé afin de donner ça à son épouse pour faire la cuisine. Alors, il se fait que ce papa avait sa petite fille, une petite fillette bon, de 5-6 ans. Vous voyez, les filles souvent sont attachées à leur papa. Hein. Alors, quand on va se déplacer, la fille est en train de suivre son papa. Mais quand on va être un peu plus rapide, il s'est introduit dans l'ouverture de la cave et elle est descendue dans la cave. Et la fille qui suivait son papa, à un moment donné, il ne voit plus son papa. Et la fille commence à appeler son père. Et le père, lui, était déjà dans la cave. Et quand la fille appelait son papa, elle ne va pas répondre. Alors, mais parce que comme elle tenait à être avec son père, elle voulait être avec son père, à côté de son père. Elle appelle son père, le père lui répond à partir de l'ouverture. Là, il fait sombre, hein? Il fait noir. Alors, le papa dit à sa fille de se jeter dans l'ouverture. Oui, c'est dangereux. Hein? Mais alors, papa, comme la fille tenait à être avec son père, le père dit à sa fille de se jeter par l'ouverture, parce que la fille entendait la voix de son père, mais ne voyait pas son père. Alors, comme elle tenait à être à côté de son père, elle s'est jetée dans l'ouverture. Je peux dire, dans le trou. OK? Dans le trou de la cave. Et papa ne pouvait pas faire une erreur. Hein? Il surveillait pour recueillir sa fille. Et ce que la fille a fait, elle s'est jetée dans le noir. Et son papa l'a recueillie. Amen. Vous voyez, le geste de la fille, c'est ça la foi. Ce qui a poussé la fille à se jeter dans le noir, où elle ne voyait rien, c'est ça la foi. Ce geste-là, ce geste de la foi. Amen. C'est ça la foi. Bon, moi j'ai cru comprendre que c'est ça la foi. Parce que cette fille, non, on ne peut pas se jeter dans le noir comme ça. Mais parce qu'elle était rassurée par son père, qui était avec elle il n'y a pas longtemps, qui a disparu. Mais elle entend son père parler dans le trou. Alors le père dit, jette-toi, moi je suis dans le trou, je te recueillerai. Et la fille s'est jetée, faisant confiance à son père. Alléluia. C'est ça la foi. C'est ça qu'on nous demande d'avoir. Dès que vous avez cette foi en Dieu, laquelle foi vient de l'écoute de la parole de Dieu, alors vous êtes un triomphateur. Amen. Alors, le monde dont il est question ici, ce n'est pas le monde physique. Le monde, comme je viens de vous le dire, c'est un système. Un système mondial gouverné par Satan et qui fonctionne selon des principes universels de la force, de la cupidité, de l'orgueil et de la licence. Là, c'est un peu une définition que Scofield a donnée. Voilà le monde. Un système, pas le monde physique. Le monde dont nous sommes triomphateurs, ce n'est pas le monde physique, mais le monde, un système mondial gouverné par Satan. Et qui fonctionne selon le principe universel de force, de cupidité, d'orgueil et de licence. Si vous observez les relations dans le monde, c'est la force, c'est la cupidité, c'est l'orgueil et c'est la licence. Dans le calendrier La Bonne Semence, il y a un feuillet là, je ne sais pas, du 12 ou du 13, je ne me rappelle plus, on a parlé de la liberté. Pour ceux qui ont lu, il y a un texte là, au verso de ce feuillet là. Alors l'auteur dit, les gens veulent la liberté dans une vie sans contrainte. Voilà ça la liberté. Donc vivre sans contrainte. Pas possible. On ne peut pas vivre sans contrainte. Or, c'est ça la conception des gens du monde. Quand ils parlent de la liberté, ils veulent vivre donc sans contrainte. Or, ceux-là qui ont vécu comme ceux-là, qui ont voulu ce genre de liberté, ils ont fini, d'après l'auteur, ils ont fini seuls et malheureux. Donc, la véritable liberté, ce n'est pas celle-là. Et c'est le monde qui amène ces gens de pensée. Alors les gens, ils veulent la licence. Et qu'ils fassent ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Voilà ce que les gens veulent. Et c'est ça que le diable veut. Il pousse les gens à ce niveau-là. Et tout ce qu'il cherche dans ce système, il poursuit trois principes. Dérober, détruire et égorger. C'est ça qu'il poursuit Satan dans ce système. Égorger qui? L'homme créé à l'image de Dieu. C'est tout ce qu'il cherche. Bien aimé, ça c'est le monde qui fait que nous, comme nous avons la foi en Jésus-Christ, nous sommes les triomphateurs de ce monde. Et dans les commentaires que j'ai lus dans les différentes Bibles, on dit que le terme qui est traduit par « triomphe » veut signifier une victoire permanente. C'est dire que quand nous croyons en Jésus-Christ, quand nous sommes maintenant dépositaires de la foi, nous sommes triomphateurs. Jésus lui-même a dit, dans Jean 16, verset 33, Jean 16, verset 33, j'ai bénis le Seigneur que Robert ait parlé de tribulations la fois passée, parce qu'il n'y a pas de contradiction, c'est un peu la suite de ce que nous avons suivi la fois passée. Dans Jean 16, 33, qu'est-ce que Jésus nous dit? Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Jésus, le Seigneur en qui nous croyons, nous a montré l'exemple. Il est venu, il a connu beaucoup d'obstructions dans l'accomplissement de sa mission. Même Pierre, un de ses disciples, a dit, mais Seigneur, en tout cas, tu ne peux pas arriver à faire une telle chose, mourir. Oh non, quand même, non, toi, tu ne peux pas mourir. Et Jésus a dit, allez, arrière de moi, Satan. Donc, Jésus a connu beaucoup d'obstacles pour l'empêcher à la réalisation de sa mission, laquelle mission lui a été confiée par son Père. Alors, il nous dit de tenir bon. Lui, il a triomphé du monde. Alors, si nous nous accrochons à Jésus, je vous dis, bien-aimé, nous sommes des triomphateurs, parce que la parole de Dieu ne peut pas mentir. Et si nous avons cette foi, c'est nous qui allons impacter le monde. Jésus a impacté le monde à son temps. Il impacte encore le monde aujourd'hui. Il impactera encore le monde demain. Jésus. Alors, si nous nous accrochons à Jésus, nous aussi nous allons impacter le monde. Vous savez, Paul et Silas, à un moment donné, la Bible dit, dans chapitre 16 ou 17 des Actes des Apôtres, les deux, Paul et Silas, ont mis le monde sens dessus, sens dessous. Et les gens se sont plaints. Deux personnes seulement. Deux. Ont mis le monde sens dessous, sens dessous. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi en Jésus-Christ. Ils étaient unis à Jésus-Christ. Ils étaient attachés à Jésus-Christ. Et ils ont bouleversé le monde. La Bible en parle. Donc, cela est possible encore aujourd'hui. Toi et moi. Amen. Amen. Je vois votre amen là, il est faible. C'est la parole de Dieu et c'est la vérité. Alors, je vais vous donner un exemple pour vous démontrer que ceci est la vérité. Nous allons voir quelqu'un qui a eu la foi que nous avons aujourd'hui, et nous avons vu ce qu'elle en était à son temps. 1 Samuel chapitre 17. Nous allons parler de David. 1 Samuel chapitre 17. Samuel 17, verset 31 à 37. Nous lisons. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, On les répéta devant Saül, qui les fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Alléluia.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Voici les paroles de foi. Les paroles prononcées par quelqu'un qui a la foi. La foi en son Dieu. Ce Dieu en qui nous avons, toi et moi, cru, qui s'appelle Jésus-Christ. Bon. Voilà un exemple que j'ai voulu partager avec vous. Bien-aimé, David a piqué une sainte colère. Parce que quand son papa l'a envoyé pour aller secourir ses frères, pour leur donner à manger, parce que ça faisait 40 jours qu'ils étaient en guerre, hein, 40 jours. Et c'est la guerre, à l'époque, ce n'est pas la guerre comme aujourd'hui. Hein. Là, les gens se mettaient en groupe, donc ils se mettaient en rang, je ne sais pas, de cette façon-ci, contre l'autre groupe devant nous. Et là, il sort un monsieur, un héros, il sort et il défie l'autre groupe. Et ici, il faut qu'il y ait un homme fort aussi, un héros qui sort, et les deux vont se battre là au milieu. Le vainqueur fera que tout son groupe devient vainqueur. Maintenant, David arrive, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un géant, du genre du fils d'Anak. Vous voyez le fils d'Anak? Bon, je ne sais pas si je ne sais pas s'il y a des gens qui regardent le catch. À un moment donné, j'ai regardé le catch, je ne regarde plus. Il y a un monsieur là-bas, on dit le requin blanc. Un castard. Quand il sort, lui, quand il rentre dans le ring, c'est comme ceci, il parle dessus. Tellement qu'il est géant. Voilà, c'est ce monsieur là-bas, un type comme ça, qui est sorti devant les enfants d'Israël pour les défier. Et tout le monde est reculé. Vous avez vu? Il est sorti là pour défier les enfants d'Israël. Tout le peuple, donc les guerriers, quoi. Tout le monde tremblait devant Goliath. Alors, quand ce monsieur est sorti pour défier Israël, personne n'a bronché. Et cela fait 40 jours qu'ils sont dans cette situation-là. Alors, David, pour moi, a piqué une sainte colère. Au verset 26, voici ce que David dit. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël ?» Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Qui est cet incirconcis, bien-aimé? Il a été piqué par une sainte colère. Ça l'a affligé. Un incirconcis, il se lève, il défie l'armée du Dieu vivant, l'armée d'Israël, l'Israël à qui appartient le Dieu vivant. Et tout le monde reculait. Il dit, non, moi je vais me battre. Alors, le roi dit, non, David, t'en fais pas. Toi, tu n'es qu'un enfant. Tu n'es qu'un enfant. Ce monsieur, il fait la guerre depuis sa jeunesse. Vous voyez que son physique, il fait peur. Il fait trembler les gens. Moi-même, je ne peux pas. Ça fait 40 jours que nous sommes là. Amen. Bien-aimé, Dans la vie, il y a des obstacles. Des obstacles immenses auxquels nous pouvons faire face. Mais toi et moi, quel que soit l'obstacle du système monté par le diable, nous sommes des triomphateurs. Il faut que nous ayons cette foi-là. Il faut que nous puissions nous lever et dire que notre Dieu, il est Dieu vivant, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu vainqueur, et moi aussi, je suis un vainqueur. Il faut qu'on se le dise. Il faut que toi, tu crois ça dans ton cœur. C'est ce que David a fait. Alors, quand il s'est levé, il dit, toi, tu n'es qu'un enfant. Lui, il fait la guerre depuis le bas âge. Il dit, écoute, moi, quand j'étais en train de paître les bébés de mon père dans la brousse, quand le lion venait, vous connaissez le lion, vous avez déjà vu le lion, hein? Ou l'ours, vous avez déjà vu l'ours aussi, hein? Ce sont des animaux devant qui on ne peut pas blaguer, hein? Mais David, qu'est-ce qu'il faisait quand un lion venait prendre une brebis? Lui courait après le lion et il arrivait à arracher la brebis de la gueule du lion. Et quand le lion se dressait pour le faire du mal, lui aussi il se mettait debout, il donnait un coup au lion et il le tuait. Vous vous rendez compte? Alléluia! David, un petit garçon qui a su terrasser les lions. Non seulement le lion, il y a encore un autre animal très dangereux. L'ours. Parce que le lion, c'est souvent en Afrique. Hein? Mais l'ours, c'est ici, en Europe. En Europe. Vous le connaissez, l'ours. Il est très lourd, il est très puissant. Il est très puissant, cet animal-là. Alors, quand un ours aussi venait arracher une brebis, David courait après l'ours, et l'ours qui fouillait, et arrivait à arracher la brebis de la gueule de l'ours. Et quand l'ours se retournait, parce qu'on veut arracher la proie, et lui aussi se retournait, il donnait des coups, et il tuait l'ours. Vous vous rendez compte, bien-aimé? Alors, fort de cette expérience, dans la brousse, David, il répète cela devant le roi. Il dit, moi, qu'est-ce que tu vois ici? J'ai tué les lions, j'ai tué l'ours. Qu'est-ce que c'est ce Philistin? Qui défie l'armée du Dieu vivant? Non! Non! Moi, je me battais contre lui. Alors, il s'est levé, et le roi va lui donner son armure, et David, il essaye. Alors, quand il a essayé, c'était trop lourd. Il dit, non, je ne veux pas combattre comme ça. Il a enlevé cette armure, il l'a remis au roi. Mais comme c'était encore un jeune garçon, je ne sais pas de quel âge, il avait une lance-pierre. Et il va ramasser quelques pierres qu'il va mettre dans sa gibecière. Bien-aimé, maintenant, David va aller affronter Goliath. C'est un géant de 2,50 m, comme on dit. 3 mètres. OK. 3 mètres. Vous vous rendez compte? 3 mètres. Vous voyez d'abord d'ici jusque là. Hein? Bon, imaginez-vous 3 mètres. C'est ce monsieur qui sort, qui vient, qui avait terrassé, qui défiait, qui faisait peur à beaucoup de guerriers, à beaucoup de soldats, des enfants d'Israël. Et David va sortir devant lui avec une lance-pierre. Alors, bien-aimé, je vais attirer votre attention là-dessus. Si nous avons la foi, c'est bien. Mais cette foi-là, nous ne devons pas la cacher. Nous devons la proclamer. Ne faisons pas comme ce monsieur dont Yves nous a souvent parlé ici. Un monsieur qui allait, je crois, dans une rencontre, c'est pas de. Une rencontre des enfants de Dieu, je ne sais pas. Sa femme a pris soin de mettre la Bible dans son sac. Il est parti et il est rentré. Il dit à sa femme, très joyeux, figurez-vous, personne ne sait que je suis chrétien. Vous vous rendez compte? C'est une défaillance. C'est une défaite. La foi, on doit la proclamer. Voici ce que va faire Goliath. quand David va aller à sa rencontre. Verset 42. Le Philistin regarda, comme Samuel chapitre 17, verset 42, à partir de là. Le Philistin. Bon, je prends à partir du verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David, il ne va pas se taire. Il ne va pas se taire. Il va aussi répondre. Il dit, il va répliquer. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Alléluia. Un petit bonhomme, hein, il n'est pas 15, 17 ou 18 ans. Voici comment il réagit. Il ne tremble pas. Il proclame sa foi. Toi, tu viens vers moi avec la lance, le javelot. Moi, je viens vers toi au nom de l'Éternel, au nom de l'Éternel, mon Dieu, son Dieu. Il proclame sa foi. Combien proclamons-nous notre foi? Pas une fausse modestie, une fausse humilité. Il dit non, il ne faut pas qu'on sache, qu'on dise pas que je ne suis pas humble. C'est quelle humilité ça? Il faut lui proclamer sa foi. Vous voulez cacher quoi? Parce que cette foi-là fait de toi un triomphateur. Quelqu'un qui remporte une victoire éclatante devant le système mis en place par le diable. Alors, de quoi vous avez peur? Voilà ce qui fait qu'il y a une défaite au niveau des chrétiens. Voilà ce qui fait que le christianisme, il est difficile à s'imposer dans certaines choses, dans certains milieux. Parce que les enfants, ceux qui sont détenteurs de cette foi-là, ne veulent pas la proclamer, ne veulent pas l'exprimer. Ils tremblent. Dieu n'utilise pas de peureux. Hein. Ah, mais non, je vous le dis. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Dieu utilise des courageux. Il veut des courageux. Nous devons être, toi et moi, devons être des courageux. Le système monté par le diable, il fait peur, il fait trembler les gens. Mais nous devons nous mettre debout, nous devons avoir du courage pour affronter comme David, un petit garçon qui va affronter ce grand monsieur-là de 3 mètres avec une lance et quelques pierres. Parce qu'il a foi en son Dieu. Il se réfère dans sa vie, dans la brousse, quand il pesait les brebis de son père. Il a tué le lion, il a tué l'ours. Mais alors, ce Philistin, qui est-ce qu'il est lui? Voilà. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Je marche au nom de l'Éternel. Nous, aujourd'hui, nous disons au nom de Jésus. Je vais t'affronter au nom de Jésus. Le faisons-nous? La queue entre les pattes, pour fausse humilité, et dit non, il ne faut pas qu'on sache que moi je suis chrétien. C'est une défaite. On est déjà défaillant. Le système mis en place par le diable dans ce monde ne peut nous laisser aucun moment pour que nous puissions affirmer notre foi. Ah, mais oui. Nous devons nous mettre debout, comme David l'a fait. Bien-aimé, la parole qui est dans notre bouche. La parole de Dieu est une puissance. Dieu a créé le monde par la parole. Eh bien, comme Dieu a créé le monde par la parole, Dieu aussi a mis cette parole en nous. Et cette parole, dès que nous la prononçons, cette parole est une puissance. Elle agit. C'est pour ça qu'il faut faire des déclarations. Et les gens du monde comprennent cela. Les gens qui sont dans le système du diable, et ont compris. Ici, nous avons vu là-bas que Goliath a maudit David par ses dieux. Ah ben oui, c'est ce qu'il dit. Il s'est mis debout, il a maudit David par ses dieux. Voilà sa force. Voilà sa force. Il le maudit par ses dieux. Et puis maintenant, il va l'affronter. David, à son tour, il ne va pas se laisser faire. Il va aussi faire une déclaration. Moi aussi, je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées. L'armée d'Israël, que tu as insulté. Voilà. Vous voyez que David a ce qu'on appelle, que j'appelle une sainte colère. Il ne pouvait pas supporter ça. Est-ce que vous allez, vous aussi, de piquer une sainte colère? Ici, on dit non. Ici, dans la France, nous sommes un état laïque. Il est interdit de parler religion, surtout le milieu du travail. Bien aimé, moi, je peux vous dire que moi, ce que j'ai fait, depuis que je suis arrivé, bon, je ne sais pas si c'est pour ça que je n'ai pas du travail. Oh oui, partout où j'arrive, moi, je parle du Seigneur. J'arrive à vous présenter mon problème, et après, allez, je parle du Seigneur à la personne. Et à la fin de compte, je promets une Bible. C'est ce que j'ai toujours fait. Ah, je vous l'ai dit. Parce que c'est nous qui sommes la lumière du monde. C'est nous qui devons apporter la lumière aux autres. Ils sont dans l'ignorance. Ils sont asservis par le péché, par le diable. Et il n'y a que toi et moi qui connaissons la vérité, qui peuvent leur parler de la vérité pour qu'ils connaissent la vérité, afin que le voile puisse tomber. C'est par nous, par notre parole qui sort de notre bouche. Oh, vous ne le faites pas. Tu sais, les apôtres, quand on leur avait interdit de parler de Jésus, ils ont dit, mais jugez-en vous-même. Jugez-en vous-même. Faut-il obéir à vous plutôt qu'à Dieu? Bien-aimé, l'évangile, pour annoncer l'évangile, il faut avoir du courage. Je vous le dis. Il y a un système qui est monté par le diable. Et ce système ne permet pas à nous de nous exprimer. Mais le Seigneur nous a donné une force, une capacité, la foi. Et comme nous avons la foi, ce n'est pas seule la foi qui suffit, hein. Il y a d'autres éléments. Il faut aussi la puissance. Nous sommes des triomphateurs. C'est nous qui devons impacter. Mais qu'est-ce que nous voyons? C'est le monde qui nous impacte. Alors que la Bible dit, tout celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et c'est ça que nous vivons. Même sur le plan vestimentaire, maintenant, c'est ahurissant quand vous voyez ce que dans la ville. Des culottes là. Des femmes, des mamans, même des femmes mariées. Des culottes là. Et au-dessus, des bardères. Parce qu'il fait chaud. C'est le prétexte qu'on trouve. Parce qu'il fait chaud. Quelle tenue? Quelle tenue? Et, curieusement, même les enfants de Dieu, même nos sœurs, ont le même comportement. Parce qu'il fait chaud. Ils se permettent n'importe quel habillement. Mais vous êtes une nouvelle créature. Une nouvelle création. Vous êtes le temple de Dieu. Vous avez la foi. Vous êtes un triomphateur de ce monde. C'est nous qui devons impacter. Les gens du monde doivent suivre notre exemple à nous. Ce ne sont pas nous qui devons suivre l'exemple du monde. Bien-aimés. Bien-aimés, mes chers frères et sœurs, c'est nous qui devons impacter parce que nous sommes triomphateurs, parce que nous sommes dépositaires de la foi en Jésus-Christ. Nous avons cru en Jésus, nous avons la foi et cette foi triomphe du monde, c'est ce que la Bible dit. Et Jésus, bien qu'il a connu des difficultés, bien qu'il a eu des obstacles, il a vaincu à la croix. Et il a dit, tout est accompli à la croix. Et alors, tout est là. Nous n'avons plus besoin de chercher la victoire. Nous marchons dans la victoire. Nous luttons dans la victoire. La victoire nous a été déjà été saisie, donc octroyée par Jésus-Christ, à qui nous croyons. C'est nous qui devons impacter, mais c'est le monde qui nous impacte. On dit, oh non, on ne prêche pas la parole de Dieu parce que nous sommes en état de laïc. Mais les musulmans, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Oh, signe distinctif, comme on dit. Il ne faut pas avoir de signe distinctif. Mais les musulmans avec leur robe là-bas. les femmes avec leur truc qui portaient sur leur tête. C'est pas des signes distinctifs? Hein? Ce n'est pas des signes distinctifs? Bon, le halal dans les grandes surfaces, ce n'est pas des signes distinctifs? Mais c'est valable pour les chrétiens. Ah non, non, on a dit signes distinctifs. Il ne faut pas. Nous sommes des états laïcs. On ne parle pas. Non! Mais comment les autres gens vont sortir du monde des ténèbres? Comment ils seront sauvés? Si toi et moi, nous ne parlons pas. Alors, David a déclaré sa foi. Il déclare, moi j'avance contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Je suis le défi. Et alors, parce qu'il marche au nom de l'Éternel, et pensez que Dieu va l'abandonner. Hein? Bien aimé. Donc, voici David qui a placé sa foi en Dieu et il est d'avancer contre le géant. Le géant ici, Goliath, c'est un obstacle grandiose que toi et moi nous pouvons rencontrer dans notre vie. Mais alors, nous devons nous lever. Nous devons avoir du courage. Nous devons affronter, nous devons proclamer notre foi au nom de Jésus-Christ. Et alors nous réussirons. Sinon, alors ça sert à quoi? C'est ce que nous appelons foi. Alors, oui, on l'a foi, oui, on ne l'a pas. Alors, quand la bataille a commencé, la Bible dit, sans hésiter un seul instant, sans doute aucun, David courut vers le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il a couru vers ce monsieur là-bas. Il n'a pas eu peur. Alors que ses grands frères et le roi, tous tremblaient, ils reculaient. Vous avez vu cet homme-là? Tous tremblaient, ils reculaient. Mais lui, dès que Goliath est venu, lui aussi a pris son lance-pierre. Il a couru sur le champ de bataille. Donc, prêt à combattre. Et ce qu'il a fait, le doute, c'est le contraire de la foi. Il ne faut pas avoir de doute. C'est-à-dire, ou bien vous ne vous connaissez pas vous-même. Ou bien vous ne connaissez pas ce Jésus là-bas. Ah mais c'est ça, moi je ne comprends pas. Ou bien, nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, nous ne connaissons pas ce qui est en nous, ou bien nous ne connaissons pas ce Jésus là-bas, nous le minimisons, nous le limitons. Mais si vous savez que Jésus est en vous, et qu'il a vaincu le monde, vous allez vous avancer. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 17, verset 48? Aussi, 1 Samuel chapitre 17, verset 48 à 52. Aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière et prit une pierre et la plaça avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Et le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusqu'à la vallée et jusqu'aux portes des Crons. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le champ, dans le chemin de Charaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Vous voyez, à cause de la foi, David s'est mis debout, s'est dressé contre ces messieurs. Il a eu son courage et il a mis sa foi en Dieu. Il est sorti vainqueur. Ce Dieu-là, il n'a pas changé. C'est le même que nous avons aujourd'hui. Et maintenant, nous connaissons son nom. Là, on parle seulement de l'Éternel. Maintenant, nous connaissons le nom de notre Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. Bien-aimé. Lève-nous. Lève-nous. Le monde nous défie. Nous aussi, nous devons défier le monde. Maintenant, nous savons que comme nous avons la foi triomphe du monde. C'est ce que la parole de Dieu dit. À moins que la parole dise mente. Bien aimé, Cependant, il y a des obstacles. Il faut que je vous en parle. Il y a des obstacles. Il y a des obstacles extérieurs, des obstacles intérieurs. Mais quand on a la foi, on va sortir vainqueur de tous ces obstacles. David en a rencontré. Je vais vous en parler. Que ça ne vous décourage pas. Jésus nous a déjà dit, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations. Mais moi, j'ai vaincu le monde. Prenez courage. C'est le problème de prendre courage. Toi et moi, nous devons prendre courage. Le premier obstacle externe, c'est 1 Samuel 17, verset 28. 1 Samuel 17, 28, nous lisons. Éliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler de ses hommes, à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Son grand frère s'oppose à son petit frère. Il dit, « Mais écoute, qu'est-ce que tu viens faire ici? Hein? Toi, tu gardes des brebis là-bas, mais tu viens faire quoi ici? D'ailleurs, ce n'est pas de ton âge. » Amen. Premier obstacle. Son grand frère, il dit, il faut rentrer et garder les brebis. Il y a aussi des obstacles externes. D'abord, le géant là, lui-même. Si on le décrit, 1 Samuel 17, verset 4 à 7, on ne va plus le temps de lire ça. Quand on le décrit, mais ça fait peur. 3 mètres, mes bien-aimés. Qui mesure 3 mètres ici? Et puis castard. Et puis il fait la guerre depuis sa jeunesse. Il y a de quoi avoir peur. Même le roi Saul avait peur sur le champ de bataille. Il tremblait. Alors, mais ce monsieur devant David, lui, il regarde le Philistin, mais il voit Dieu. Je me suis bien exprimé. David regarde le Philistin qui était devant lui, le géant. Mais lui, il voit Dieu. C'est comme ça que nous devons fonctionner. Nous devons voir au-delà le physique. C'est ça. Mais la foi nous dit quoi? La foi nous dit de voir Jésus, pas de voir la personne, pas de voir l'obstacle. Vous savez, Pierre, quand il marchait, il a vu Jésus marcher sur les eaux. Il dit, ah, c'était un fantôme. Jésus dit, non, c'est moi, rassurez-vous. Pierre dit, ah, c'est toi Jésus. Il dit, alors, si c'est toi, dis-moi que je marche sur les eaux. Il dit, viens. Alors, Pierre s'est mis à marcher sur les eaux, oui ou non? Il a marché. Mais tu sais ce qui est arrivé? À un moment donné, il s'est réalisé que moi, un homme, je marche sur les eaux. Il commençait à regarder les eaux. Et comme son regard était plus fixé sur Jésus, il a commencé à regarder les eaux, et il a commencé à s'enfoncer. Bien aimé, ayons notre regard sur Jésus. Le regard doit être fixé sur Jésus et non fixé sur l'obstacle. Et ce principe, le monde l'a aussi expérimenté. Quand il faisait la conduite, les codes, on dit quand il y a un obstacle, toi ne regarde pas l'obstacle. Regarde ailleurs. Parce qu'il y a l'obstacle, tu seras attiré vers l'obstacle. Eh oui, la conduite. Une des règles, il dit comme cela. Il y a un obstacle devant toi, toi ne regarde pas l'obstacle, regarde ailleurs. Parce que si tu regardes l'obstacle, tu seras comme attiré vers l'obstacle et tu vas faire l'accident. Oui, c'est ça. On regarde, les yeux voient quand même, oui, les regardes, tu regardes, l'obstacle est là. Mais toi, vois Jésus. C'est comme ça que nous devons fonctionner. Parce que nous sommes ici dans un monde spirituel. Nous y accédons par la foi et nous fonctionnons par la foi. Et c'est ainsi que la parole de Dieu dit, « Et mon juste vivra par la foi. » C'est ça la vérité, c'est la réalité. Bien aimé, bon, je suis arrivé ici depuis 2010, le 4 juillet 2010. Jusqu'à aujourd'hui, je ne travaille pas. Je n'ai même pas travaillé, même trois mois. Parce que pour l'emploi, pour avoir le RSA, il faut avoir travaillé au moins 3 mois en France. Moi, je n'ai jamais travaillé au moins 3 mois. Je n'ai pas le RSA, mais je vis. Vous ne me voyez pas? Ça fait 5 ans que je suis avec vous. Je ne travaille pas, je vis. Par la foi. Par la foi. Et Dieu me vêtit. Tout ça que je veux. Moi, c'est mon épouse qui a acheté. Elle est là. Demandez si c'est elle qui a acheté. C'est par la foi. Le Seigneur s'occupe de moi. C'est ça la vérité. Alors, bien aimé, nous avons aussi des obstacles extérieurs. Le roi, dans 1 Samuel chapitre 17, verset 33. 1 Samuel chapitre 17, verset 33. Saul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. C'est pour le décourager, pour qu'il dise non, il ne faut pas oser. Hein. Quelque part, en tant que père de famille, il prend David comme étant son fils. Il a pitié de lui. Il dit non, il ne faut pas faire la guerre. Mais moi, ici, je tremble devant cet homme, toi, tu vas aller faire la guerre. Il ne faut pas aller. Voilà, dans la réalisation de notre triomphe, nous allons rencontrer des difficultés. Mais il faut confesser notre foi. Est-ce que Dieu n'a rien fait dans ta vie jusqu'à aujourd'hui? Hein? Rien n'a rien fait dans ta vie. Mais alors, appuie-toi sur ce que Dieu a fait. Si Dieu a fait ça, pourquoi il ne ferait pas ça? Alléluia. S'il a fait ça, pourquoi il ne ferait pas ça? Il le fera. Alors je fonce. J'y vais. Au nom de Jésus. Et Dieu le fera. Parce que c'est pour son honneur. C'est son nom qui est en cause. Dieu n'a jamais connu la défaite. Hein? Jamais. Bien, bien-aimés, j'aimerais vous inviter à ce que vous sachiez que comme nous avons cru en Jésus-Christ, nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, nous sommes des triomphateurs de ce monde. Donc ce monde veut dire le système mis en place par le Satan. Et nous sommes des vainqueurs. Nous sommes des vainqueurs. Voilà. Nous devons confesser ça. Et nous devons nous mettre debout parce que tout ne sera pas rose. Hein? C'est pas comme les trucs là. Comment on appelle ça? Les trucs avec, il y a des roulettes là. Comment on appelle? Hein? Des rollers. Ce n'est pas comme dans le roller. On va faire comme ça. Là, on glisse. Non. Il y a des obstacles. Amen. Mais devant ces obstacles, nous devons nous référer à notre foi. Nous devons nous référer au moins à un acte que Dieu a posé dans ta vie. Pour dire que si Dieu a fait ça, pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas ça? Alors j'y vais, au nom de Jésus. Et alors, à ce moment-là, il faut aussi mettre ta vie en ordre avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le péché constitue un obstacle à toi-même. Il faut faire attention. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Alors, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible où on montre que la foi triomphe de ce monde. La foi triomphe de ce monde. Jéricho. Les enfants disaient, on n'a fait que tourner autour. Hein. Tourner autour. Pendant 6 jours, le 7e jour, ça se met à la trompette, ça sonnait, tout s'est écroulé. Bien-aimés, c'est très important. Il y a des principes dans la parole de Dieu. Nous devons respecter ces principes. Il faut les découvrir et les appliquer. Tu sais, Balak, le roi Balak, quand Israël était dans le désert, il a demandé au prophète Balaam de maudire ce peuple avant qu'il ne puisse les attaquer. Il a d'abord demandé qu'il puisse maudire ce peuple. Et c'est ce que Goliath a fait. Il a d'abord commencé par maudire David par ses dieux. C'est un principe spirituel. Il faut confesser la foi. Il faut la confesser, la proclamer. Pas la garder. Par fausse modestie, par fausse humilité. Il faut proclamer la foi. Nous devons être courageux. Affronter ce monde. Alors, bien-aimés, ne vous étonnez pas. Il y a des difficultés. Alors, monsieur, j'ai compris. David, en bourse là-bas, il y a des insectes. Il était en proie aux insectes. Au froid. À la chaleur. Loin de ses parents. Privé de l'affection de ses parents, privé de l'affection de ses frères et sœurs, privé de l'affection de ses amis. Loin. Et il était confronté à lutter contre le lion et l'ours. Lui, un petit garçon.
Donc, Dieu le préparait déjà. Vous voyez les difficultés que nous rencontrons, nous devons les prendre comme étant des épreuves. Les épreuves nous servent de préparation pour que nous puissions rencontrer de grandes batailles. Mais quand vous êtes passé dans l'épreuve, vous commencez à pleurnicher, oh, ça ne va pas, c'est juste, ça ne va pas, c'est juste, ça ne va pas. Mais vous êtes un enfant de Dieu, des épreuves, c'est normal. Il faut passer par les épreuves pour vous affermir, pour que votre foi doit être affermie, pour que aux prochaines batailles, vous puissiez être triomphateur. C'est comme ça, notre Dieu nous exerce ce combat, de cette manière là-bas. Nous faisons passer par des épreuves. Donc, ne trouvez pas que les épreuves sont mauvaises. Parfois, les difficultés que nous avons, ce sont des épreuves que le Seigneur permet pour affirmer notre foi. Il nous prépare à de grandes batailles futures. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.